Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Avec en titre la visite de Ban Ki-moon à Kiev, venu réaffirmer son soutien au pays. L'UNICEF qui plaide pour une levée des sanctions contre le Yémen. Début au Libéria d'une campagne de vaccination alors que le danger d'Ebola semble s'éloigner. Dans le dossier retour avec le PAM sur le risque de crise humanitaire au Burundi. Et puis avec Philippe Lazzarini, nous ferons le point sur la situation humanitaire en Somalie. Après la Pologne, avant de se rendre samedi en Russie, le secrétaire général des Nations Unies est ce vendredi en Ukraine. À Kiev, il a eu des entretiens avec le Premier ministre Arseniy Yatsenyuk sur le conflit à l'est du pays, ainsi que sur les réformes critiques entreprises par le gouvernement. Lors d'une cérémonie commémorative de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec le président ukrainien Petro Porochenko, Ban Ki-moon a déclaré que l'Ukraine a fait d'immenses sacrifices, sacrifices que le monde ne doit pas oublier et n'oubliera jamais. Le secrétaire général qui a également réaffirmé l'engagement des Nations Unies à soutenir l'Ukraine et son peuple. On l'écoute.
L'Organisation des Nations Unies a travaillé très dur pour protéger les vies humaines et la dignité humaine. Je sais qu'il y a eu certains revers et échecs, mais les Nations Unies est l'organisation la plus légitime de la communauté internationale pour préserver la paix, la liberté, la dignité humaine et les droits humains. Je suis attristé de venir en Ukraine au milieu d'un conflit démoralisant à l'Est, où près de 7000 personnes ont perdu la vie et tant de destructions ont été infligées à votre société. L'ONU est solidaire du peuple de l'Ukraine. Je suis ici pour réaffirmer mon soutien à une résolution pacifique du conflit de façon à respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Ukraine.
Selon l'UNICEF, la poursuite des restrictions sur les importations commerciales de nourriture et de carburant pourrait, dans les mois à venir, engendrer plus de décès d'enfants que les armes. Pour rappel, le Yémen importe 90% de son alimentation. 120 000 enfants seraient à risque de malnutrition sévère dans les trois prochains mois si les services de santé et d'hygiène ne redémarrent pas. Christophe Boulirac, porte-parole de l'UNICEF.
Ce qui est particulièrement préoccupant aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de livraison de carburant par les bateaux commerciaux. C'est très préoccupant. À l'UNICEF, nous continuons de fournir du carburant pour maintenir la chaîne de froid, pour que les vaccins, même si les campagnes de vaccination ont été interrompues, que les vaccins puissent être au moins conservés dans des conditions correctes. Nous fournissons également du carburant pour pouvoir alimenter, faire fonctionner les stations de pompage d'eau, hein, pour que la population puisse avoir accès à de l'eau saine. Mais tout ça n'est pas garanti dans la durée, malheureusement, et nous pensons que cela aura des conséquences extrêmement graves sur les enfants au Yémen.
Au Libéria, une importante campagne de vaccination contre la polio et la rougeole a été lancée aujourd'hui. D'une durée d'une semaine, elle doit immuniser plus de 600 000 enfants. Initialement prévue en 2014, cette campagne avait été reportée en raison de l'épidémie d'Ebola. Dirigée par le gouvernement libérien, cette campagne est notamment appuyée par l'UNICEF, l'OMS et le Center for Disease Control. Isabelle Dupuis.
Selon le ministère de la Santé du Libéria, l'interruption du programme de vaccination dans le pays a provoqué des écarts alarmants dans les niveaux d'immunisation de la population, laissant un nombre considérable d'enfants vulnérables aux infections. Suite à la flambée d'Ebola dans le pays, le taux de vaccination contre la rougeole a notamment chuté de 45% entre août et décembre 2014. La campagne de vaccination lancée aujourd'hui représente donc une étape importante pour le rétablissement des services de santé du Libéria. Elle se déroulera toutefois dans un contexte très particulier. En effet, si aucun nouveau cas d'Ebola n'est confirmé, le Libéria devrait être déclaré exempt de la transmission de cette maladie samedi. Mais en raison du risque de réintroduction du virus depuis la Guinée et la Sierra Leone voisine, où les transmissions se poursuivent, les mesures préventives seront renforcées, à commencer par la vérification de la température et l'utilisation de seringues à usage unique et de gants neufs pour chaque enfant vacciné.
La violence tue chaque année 508 000 personnes dans le monde selon une étude publiée à Genève par le PNUD et Small Arms Survey. La Syrie, le Honduras et le Venezuela sont les trois pays les plus meurtriers. Le fardeau mondial de la violence armée en 2015 révèle que les morts violentes ont été moins nombreuses mais que les conflits ont été plus meurtriers. Aussi, la plupart des morts violentes se sont produites en dehors des zones de conflit. Luigi Di Martino, chercheur principal à Small Arms Survey.
La majorité de ces personnes, de ces victimes, ont été tuées en dehors des zones de conflit. Mais depuis le rapport précédent qu'on avait fait en 2011, qui couvrait la période jusqu'en 2009, on voit que la distribution entre morts violentes dues à des homicides, donc en dehors des zones de conflit et morts violentes dans des zones de conflit, a changé avec une augmentation des morts en conflit. Actuellement, les morts liées au conflit, on estime environ à 70 000 personnes, 70 000 personnes qui ont été tuées en zone de conflit armé. Ceci est principalement dû à des conflits comme la Libye, à des conflits comme la Syrie.
Enfin, comme chaque année, durant le deuxième week-end de mai, est célébrée la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, et ce pour sensibiliser sur la nécessité de les protéger. Thème retenu en 2015 pour une énergie respectueuse des oiseaux. Un thème sur lequel revient Jacques Trouvilliez, il est secrétaire exécutif de l'accord sur les oiseaux migrateurs d'Afrique-Eurasie.
Nous avons choisi pour cette dixième édition de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs le thème intitulé « Pour une énergie respectueuse des oiseaux migrateurs », parce que si nous nous reconnaissons que nous avons besoin d'énergie pour le développement, si nous avons besoin d'énergie renouvelable pour lutter contre le changement climatique, comme toute chose, il y a parfois des côtés négatifs, et le développement de ces énergies, qu'elles soient traditionnelles ou renouvelables, conduit parfois à la destruction d'habitats naturels et crée des barrières aux migrations des oiseaux. Donc nous voulons souligner l'importance qu'il y a à rendre ces énergies compatibles avec la conservation des oiseaux migrateurs.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité, plus de 50 000 Burundais se sont réfugiés dans les pays voisins depuis le début des troubles préélectoraux. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ces milliers de civils sont au Rwanda, en Tanzanie et en République démocratique du Congo. Or, si ces mouvements de population se poursuivent, le PAM, le Programme alimentaire mondial, redoute que cette situation conduise à une crise humanitaire grave, comme l'a confié sa porte-parole Elisabeth Birce au micro d'Alpha Diallo.
Nous sommes extrêmement préoccupés par cette crise politique au Burundi qui pourrait conduire à une crise humanitaire grave. Et nous voyons déjà des centaines de personnes qui fuient vers les pays voisins, et cela pourrait avoir un impact grave sur la sécurité alimentaire à l'intérieur du Burundi. Nous apportons bien sûr une assistance alimentaire et nutritionnelle à 25 000 réfugiés burundais qui ont fui au Rwanda, mais nous voyons que ce chiffre est en train d'augmenter. Pour le moment, nous pourrions assister entre 50 000 et 100 000 réfugiés au Rwanda si cela était nécessaire, mais il faudrait à ce moment-là que les contributions pour les opérations du PAM soient plus importantes, car sans argent, nous ne pourrons pas accroître cette assistance.
Donc le PAM se prépare à aider 50 000 à 100 000 réfugiés, et ses prévisions, c'est pour quelle durée à peu près?
Nous pourrions donc aider entre 50 000 et 100 000 réfugiés au Rwanda, si nécessaire, pour les trois prochains mois. Mais nous espérons que le flux de réfugiés va se tarir et que la situation ne va pas s'aggraver. Nous leur apportons de la nourriture dans les centres de transit à Nyanza et à Bugesera au sud, et également à Mahama, qui est un camp de transit à l'est, qui est situé à 30 km de la frontière avec le Burundi.
Donc ces réfugiés burundais qui sont arrivés au Rwanda proviennent apparemment de provinces où les taux de malnutrition sont très élevés. Qu'est-ce que cela vous pose comme défi au niveau du PAM?
Ces réfugiés viennent en grande partie de régions où il y a un taux de malnutrition chronique très élevé. Et ils sont arrivés en laissant tous leurs biens. Ils n'ont rien avec eux. Ils sont vraiment extrêmement vulnérables, et la plus grande partie d'entre eux sont des femmes et des enfants qu'il faut aider. Il faut non seulement nourrir, mais il faut leur apporter les nutriments nécessaires afin de régler ce problème de malnutrition chez les plus faibles.
Le rapport du PAM note qu'un quart des enfants enregistrés dans les camps de transit au Rwanda sont malnutris. Que fait le PAM pour régler ces problèmes de malnutrition dans les camps de réfugiés?
En effet, par exemple, le taux de malnutrition au camp de Bugesera se monte à peu près pour 12 000 réfugiés. Ce taux est de 17%, bien au-dessus du taux déjà d'urgence auquel nous intervenons, qui est de 15%. Eh bien, nous essayons de leur apporter des compléments nutritionnels, de cibler plus particulièrement les enfants et les femmes enceintes, et de leur apporter non seulement des repas chauds, des rations d'urgence, essayer de leur apporter tout le soutien possible alimentaire dans une situation qui pour eux est une situation désespérée, puisqu'ils ont tout laissé derrière et ils sont terrorisés par la situation et les exactions.
Et qu'en est-il de la situation maintenant à l'intérieur du Burundi? Est-ce que vous avez noté quelconque signe de détérioration de la sécurité alimentaire dans le pays?
L'impact sur la sécurité alimentaire pourrait être important si les marchés ne pouvaient plus fonctionner, si les routes commerciales étaient interrompues, et également avec les violences, cela pourrait avoir un impact sur les cultures et sur la sécurité alimentaire en général des populations. Il y aura également certainement des déplacements internes, il y en a eu, mais cette situation, si elle continue à se détériorer, aura un impact grave sur la sécurité alimentaire à l'intérieur du Burundi, ce qui est extrêmement dommageable.
Dans son dernier rapport sur la Somalie, le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies indique que la situation sécuritaire continue d'être dangereuse malgré quelques progrès. Le rapport explique que les besoins humanitaires sont tels qu'une aide alimentaire de plus de 800 millions de dollars serait nécessaire. Or, seulement 12% de cette somme a été attribuée. Philippe Lazzarini, coordinateur humanitaire pour la Somalie et représentant adjoint de la mission de l'ONU, fait un bilan de la situation humanitaire et sécuritaire dans le pays au micro de Tsige Chiferao.
Je suis venu au siège pour parler aux États membres, nous au secrétariat, sur la situation de la Somalie, pour attirer l'attention de l'importance de la situation humanitaire, de demander à ce que la Somalie ne soit pas oubliée dans ce monde en crise, que l'attention aux besoins humanitaires doit être redoublée dans l'année à venir si nous ne voulons pas compromettre l'agenda plus large qui est celui de rebâtir un pays et la paix dans ce pays. Il y a eu un certain nombre de gains politiques, il y a eu un certain nombre de gains sécuritaires, mais pour consolider ces gains, il est également important que l'on réponde aux besoins humanitaires de la population et que l'on réponde aux besoins en matière de développement de cette population.
Vous avez parlé de gains sécuritaires. Pour autant, 4 employés de l'UNICEF en particulier ont perdu la vie il y a peu. Est-ce que la mission a été obligée d'augmenter sa présence sécuritaire?
Il est vrai qu'il y a eu, au cours des 2-3 dernières années, des gains sécuritaires de la part du gouvernement somalien et de la part des troupes de l'AMISOM, de l'Union africaine présente. La situation, par exemple, à Mogadiscio a fortement changé. Lorsque j'étais arrivé à Mogadiscio, la première fois, c'était une ville fantôme, alors qu'aujourd'hui, vous allez rencontrer du trafic, des feux qui fonctionnent, vous avez beaucoup de commerce, beaucoup d'initiatives. C'est une ville beaucoup plus vibrante qu'elle ne l'était il y a environ 2 ans, 2 ans et demi. Cela dit, la situation sécuritaire reste extraordinairement précaire. C'est certainement un des pays les plus dangereux au monde pour pouvoir opérer. Il y a une guerre asymétrique qui est en train de se dérouler entre l'AMISOM, le gouvernement somalien et les Al-Shabaab. Et entre cette guerre asymétrique, le travail des humanitaires, le travail de développement des Nations Unies est un travail extraordinairement dangereux. Nous avons été attaqués à Garoué récemment. 4 membres de l'UNICEF ont été tués, 5 ont été blessés, plus auraient peut-être pu être tués. Ça a été un attentat suicide dans une région que l'on qualifie comme une région plutôt normalement plus sûre que le sud du pays. Mais cela dénote de la capacité des Al-Shabaab de pouvoir opérer partout dans le pays. Donc effectivement, et ça c'est aussi un des messages que j'ai passé aux États membres, si nous voulons mettre en œuvre des programmes dans un pays comme la Somalie, nous devons aussi accepter de payer un prix financier plus élevé que dans d'autres pays, car nous ne pouvons pas nous permettre de compromettre la sécurité du personnel. Et d'un autre côté, nous devons nous assurer qu'assistance puisse être apportée à la population. Ce qui signifie que le premium de risque dans un pays comme la Somalie est beaucoup plus élevé que dans n'importe quel autre pays.
Seulement 12% des fonds requis ont été obtenus. Comment ça se traduit sur le terrain?
Ce manque de fonds est une source de préoccupation. On est en compétition avec d'autres crises, il y a trop de crises. Et heureusement ou malheureusement, les nouvelles de la Somalie ne sont pas suffisamment graves pour mobiliser des fonds en matière humanitaire.
Voilà, et c'est avec Philippe Lazzarini que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies, une édition à retrouver sur l'Internet en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité, bonne fin de semaine, on se retrouve lundi, même heure, même fréquence.